Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
La campagne donc pour les élections, les générales britanniques, les plus indécises depuis une génération, entre dans son dernier jour aujourd'hui. Aucun des deux grands partis, conservateurs et travaillistes, vous l'avez entendu, ne parviennent à prendre l'avantage dans les sondages. Malgré plus de 5 semaines de campagne, ni le parti conservateur du Premier ministre David Cameron, ni le Labour de son rival travailliste Ed Miliband sont crédités chacun d'environ un tiers des intentions de vote, score qui devrait les contraindre à s'allier à des petits partis pour gouverner. Rappelons que plus de 45 millions de Britanniques sont appelés aux urnes donc jeudi. On le sait, les enjeux sont importants puisque ce scrutin est susceptible de décider à terme du sort du Royaume-Uni dans l'Union européenne. S'il est reconduit au pouvoir, David Cameron a promis d'organiser en 2007 un référendum sur le maintien des Britanniques au sein de l'Union européenne. Et puis, souvenez-vous, il y a 5 ans, le Royaume-Uni installait son premier gouvernement de coalition depuis la Seconde Guerre mondiale. N'ayant pas réussi à obtenir la majorité absolue à la Chambre des communes, David Cameron faisait alliance avec les Lib Dems, libéraux et démocrates, et nommait ainsi son chef Nick Clegg vice-premier ministre. Beaucoup de Britanniques pensaient alors qu'il s'agissait à l'époque d'une exception, mais voici que la montée en puissance de petits partis tels que le Parti National Écossais, donc le SNP, et puis le Parti de l'Indépendance du Royaume-Uni, le UKIP, dit souvent europhobe, ces deux partis, cette montée en puissance, a fragmenté le paysage politique, diminuant d'autant de voix celles qui se portaient traditionnellement sur les poids lourds de la vie politique britannique. Ce qui fait titrer le Daily Telegraph ce matin, Nightmare on Downing Street, ça sonne comme un polar, le cauchemar sur Downing Street, faut-il rappeler que c'est la résidence du Premier ministre. Nos invités ce matin pour parler de tout cela et de cette question d'un paysage politique local et puis la question européenne en deuxième partie, nos invités donc Tom Brake, bonjour.
Bonjour.
Et puis, dois-je dire que, voilà, c'est votre anniversaire, bon anniversaire.
Ouais. Merci.
Il vaut mieux que ce soit aujourd'hui que demain.
C'est préférable, oui, je pense. Ouais.
Merci à vous. Vous êtes député et porte-parole de ces libéraux démocrates qui faisaient et qui font toujours l'actualité, mais qui faisaient cette grande actualité déjà aux dernières élections. Vous êtes candidat toujours à ces élections et votre circonscription, je vais essayer de le dire correctement, c'est, on dit comment alors? C'est Carshalton and Wellington.
Carshalton and Wellington, ah, oui. C'est exact. Ouais. Oui.
Circonscription du Grand Londres. Votre français parfait, vous le devez à des études en France, il n'y a pas si longtemps.
Pourquoi ? Oui, il y a 35 ans. Oui.
C'est rien, c'est rien du tout. Merci d'être avec nous dès ce matin. Nous sommes en compagnie aussi de Denis McShane, bonjour.
Bonjour.
Denis McShane, faut-il rappeler, ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair de 2002 à 2005, ancien député travailliste. Et vous avez, vous, et nous vous écouterons attentivement sur cette question européenne, il y a quelques jours, même hier, et encore hier dans The Guardian, des articles sur notamment cette question de comment, et vous avez publié en janvier, de comment la Grande-Bretagne va quitter l'Europe.
Ça, c'est le titre,
il n'y a pas de conditionnel.
Ça, c'est le titre de mon livre
voilà,
qui a été publié en anglais, pas encore en français, voilà. Mais attends les résultats.
Et quelques-uns de vos articles traitent bien sûr de ce sujet. Et puis nous sommes en compagnie d'un confrère, John Henley, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter au Guardian. Dites le meilleur titre, John Henley, c'est pas celui du Guardian ce matin, c'est bien celui du Daily Telegraph, pardon. Nightmare on Downing Street. Sincèrement, pour comprendre un peu, c'est vraiment le cauchemar ces élections là qui arrivent demain. Allez pour vous, par exemple, Tom Brake, parce qu'après tout, il y a 5 ans, on ne parlait que de vous. Tout le monde avait les yeux tournés vers les Lib Dems. Aujourd'hui, les yeux sont davantage tournés vers ce petit parti écossais. Tom Brake.
Il y a 5 ans, ce dont on parlait, c'était que la coalition n'allait pas pouvoir marcher plus que quelques semaines. Et 5 ans plus tard, nous avons de bons résultats en tant que l'économie. Pour mon parti, évidemment, ça a été difficile, la coalition. Mais je pense que dans les circonscriptions où nous sommes bien organisés, comme le mien, nous allons avoir des résultats bien meilleurs que les sondages prédisent.
Cauchemar, alors cauchemar, nightmare.
La raison pour laquelle, évidemment, la raison pour laquelle le Télégraphe titre ainsi, parce que ce serait un cauchemar pour les conservateurs si Labour et les travaillistes et la SNP arrivent au pouvoir. Mais plus largement, je pense que c'est pas vraiment un cauchemar, mais il faut comprendre qu'on n'a pas l'habitude de la coalition en Grande-Bretagne. On a un esprit majoritaire. On pense en tant qu'électeur que les législatives, ça sert à choisir un gouvernement. Alors, c'est pas vrai. On va choisir un parlement qui va après déterminé le gouvernement. Et c'est tout un changement d'esprit qu'il nous faut.
Est-ce que je caricature, s'il en fait de l'histoire à très gros traits et avec un peu de caricature tout de même, si je dis que finalement, il y a comme un petit séisme dans la vie politique britannique depuis... quoi, 4 siècles que ce système existe et qu'il n'a, au fond, quasiment jamais bougé. Est-ce que c'est la première fois en 4 siècles que, justement, il y a quelque chose qui change?
Pas du tout en 4 siècles, mais c'est vrai qu'avec de très, très rares exceptions, depuis au moins 2 générations, depuis peut-être, allez, 70 ans, on a toujours connu des gouvernements à un seul parti avec une majorité absolue. Donc, toute cette idée qu'il va falloir former un gouvernement, qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir trouver un gouvernement qui représente vraiment la majorité des opinions dans le pays, on n'a pas l'habitude.
Denis McShane.
Exact. Si la France Culture était là dans le 19e siècle...
Mais nous étions là.
Oui, vous étiez là.
Vous n'en souvenez pas, mais on était là.
C'était absolument comme aujourd'hui, donc des formations assez fluides. C'est relativement récent, historiquement parlant, d'avoir cette alternance binaire, soit Tory, soit Labour, soit rouge, soit bleu. En effet... on parle de sortir de l'Union européenne jusqu'au moment quand la politique se continentalise. Donc, bienvenue à Danemark, aux Pays-Bas. À Danemark, il faut aller en 1909 pour avoir un gouvernement majoritaire. Pays-Bas, c'est Guillaume Lorange, la dernière fois quand il y avait un gouvernement majoritaire. Donc, et ici, l'Écosse, c'est notre Québec. Si vous êtes canadienne, c'est absolument normal qu'il y ait une province, un parti de grand pays qui est séparatiste, indépendantiste, à peine attaché et qui bouleverse la politique fédérale, le Parlement d'Ottawa. C'est exactement la même chose ici.
Il y a une chose très importante à ajouter, en fait, c'est qu'on n'a pas la culture, on n'a pas l'expérience, mais on n'a pas vraiment les règles non plus. Les règles qui vont gouverner ces négociations. Par exemple, le Télégraphe, on voit déjà dans la presse de droite une sorte de campagne pour dire qu'un gouvernement formé par Ed Miliband et les travaillistes, terminent en deuxième place, un gouvernement qui aurait une majorité au Parlement, mais mené par un parti qui aurait fini que en deuxième place, manquerait de légitimité.
Ouais. Mais ça, on ne le lit pas que dans la Télégraphe.
C'est pas le cas.
Tom Brake.
Oui, je suis d'accord avec John que les règles ne sont pas là pour gérer une coalition, par exemple. Et les débats ou les discours qui vont devoir se passer après jeudi. Mais les règles aussi, par exemple, au sein du Parlement. Le Parlement est là pour 2 parties. Et une chose qui n'a pas changé dans les dernières 5 années, c'est que le Speaker, par exemple, reconnaît vraiment qu'il n'y a que toujours 2 parties. Il y a une opposition et un gouvernement. Il n'y a pas divers partis au sein du gouvernement.
C'est
l'équivalent du président de l'Assemblée nationale.
Le Speaker, lui, ne voit que toujours 2 partis. Mmh. Oui, mais il risque de changer.
Non, il voit le gouvernement composé à l'époque jusqu'à les derniers 5 ans, des conservateurs et libéraux-démocrates, et il reconnaît l'opposition. Aussi, en donnant la parole, écossais, irlandais, etc. Pas seulement les
Franck Bedvon, et puis je voudrais que...
Non, mais simplement, il faut peut-être juste décrire pour les auditeurs ce qu'est la Chambre des communes. Voilà. Ce n'est pas un hémicycle.
C'est un face-à-face.
Comme l'est l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un face-à-face entre 2 camps, finalement.
Ouais, c'est avant d'évoquer, il nous faut vraiment y arriver assez vite, celui qui fait parler de lui, beaucoup ici, le fameux parti écossais, le SNP. Je voudrais tout de même, Tom Brake, vous demander quel bilan tirez-vous de l'exercice au Downing Street de David Cameron. Certains disent que c'est un excellent bilan. Voyez donc, le chômage qui était de, par exemple, 7-8% en 2010 est à 6-1 et la croissance est à 2-8, à faire rêver les Français de l'autre côté du Channel. Un déficit du PIB en baisse. Mais d'autres disent, oula, le bilan de David Cameron, c'est compliqué. 2 millions de Britanniques sont mal nourris, selon l'ONG Oxfam, depuis 2013. Et puis, il y a, au fond, le nombre du chômage des jeunes s'élève toujours à 10,5% après un pic à 12,3% il y a 5 ans. Bon bilan, mauvais bilan?
Je suis ministre au sein du gouvernement, donc le bilan est excellent. le bilan économique
Je ne m'attendais pas à une entrée, j'ai tenté.
Mais il y a quand même des problèmes. Les food banks, c'est un problème que nous n'avons pas encore résolu. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, mais il y a entre les gens qui commencent à travailler, il y a un temps de laps où les gens ne se sentent pas plus aisés. Et ça, c'est un problème pour le gouvernement. Le bilan économique est positif, mais les gens, en ce moment, ne se sentent pas
plus aisés. On ne le sent pas dans la poche.
Voilà.
Et comment expliquait-on, justement, qu'on ne le sente pas dans la poche? Parce qu'on voit bien, ça et là, quand on observe l'économie européenne, que, par exemple, si on regarde l'Espagne, on dit, bien, finalement, tiens, l'Espagne va un peu mieux, ça s'améliore, mais pas du côté du social. Comment expliquer qu'au fond, on fasse bien sur la question économique et que la City, par exemple, soit contente, mais que ça ne retombe pas en pluie sur le reste de la population?
Pendant 5 ans, par exemple, les employés de l'État n'ont pas eu d'augmentation pendant une période où l'inflation était à 2-3%. Et donc, après 5 ans, les gens ne le sentent pas dans la poche. C'est évident. Mais nous sommes arrivés maintenant à un moment où l'inflation est de 0%. Et les salaires commencent à augmenter un petit peu. Donc, on va le sentir dans la poche, mais ce sera peut-être dans une année, deux années, trois années.
Alors, est-ce que, du coup, cette indécision des Britanniques dont on parle, vous la prenez mal, si j'ose dire, avec le bilan que vous avez, hein? Pourquoi, au fond, aujourd'hui, David Cameron ne serait pas davantage réélu dans un fauteuil?
Ce que je sens mal, c'est que mon parti ne participe pas à cette vue positive de ce qui se passe dans l'économie.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Nous sommes le plus petit partenaire dans une coalition. Ça se passe toujours comme ça.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé pour que, au fond, d'une alliance qui était sans faille il y a quelque temps, cette alliance-là connaisse des failles, justement, entre le Lib Dem et le parti de David Cameron?
Pendant les 5 ans, il y a toujours eu des failles, et souvent assez publiques. Et quand une élection approche, évidemment, il est nécessaire, particulièrement pour le plus petit des partis, de se montrer indépendant, d'avoir une politique qui est différente du parti principal de la coalition.
Et les coalitions ne sont jamais très favorables pour les petits partis. Et le parti de Tom, c'est triste de le dire, mais a fait des choses qui n'ont pas plu à ses électeurs, et les Lib Dems, ils vont perdre peut-être jusqu'à la moitié de leur siège.
C'est son anniversaire aujourd'hui.
Selon les sondages, je veux dire, c'est une réalité. Ouais.
On ne perdra pas la moitié de nos sièges. Ouais. Ça, je suis certain.
Alors, comment analyser, et ça, c'est la surprise pour nous, mais peut-être ici aussi d'ailleurs, de ces élections, la montée en puissance d'un parti dont on dit qu'il va sans doute faire quand même l'arbitrage de ces élections, nous n'oublierons pas l'UKIP, mais qui est ce parti écossais, tandis que les Écossais souhaitaient, il y a encore quelques temps, quasiment, ça s'est joué à pas grand-chose, quitter le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, alors qu'ils sont aujourd'hui en passe, qui sait, de peser sur la composition de cette Chambre des communes britannique.
C'est une question très intéressante, mais il faut vraiment constater que...
Tout petit parti, 5 sièges.
Voilà, exactement. Mais la défaite...
5-6 sièges.
La défaite dans le référendum pour l'indépendance, loin de les décourager, semble les avoir encouragés.
Mais au point qu'on dise qu'il risque de passer de 5 à 50 sièges.
Je pense qu'on a vu un changement fondamental dans l'esprit politique des Écossais.
Partout en Europe, la Catalogne, le Ligue du Nord dans le nord d'Italie, on voit cette désintégration des grandes nations. On peut parler de Union sociale chrétienne dans le sud, dans la Bavière allemande. On voit maintenant Slovaquie et la République tchèque. Donc, c'est absolument correspondant, comme je dis, notre politique se continentalise et la nation de l'Écosse décide d'être une nation d'abord avant d'être Labour, conservateur ou libéral-démocrate.
Je pense aussi qu'on a donné aux Écossais, pour la première fois depuis très très longtemps, la vraie occasion, la vraie chance de se décider pour eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact, qui a un effet sur voilà, l'intérêt pour la politique en général.
Tom Brake.
Et l'Écosse, c'est un pays, une nation de gauche qui réagit de façon très positive au message de Nicola Sturgeon, anti-austérité.
Le patron du S&P.
Elle va résoudre les problèmes du déficit par emprunter plus d'argent, ce qui est assez intéressant comme politique économique.
Alors, je vous propose d'écouter Christian Allard, qui est un parfait député écossais du SNP. Mais il se trouve qu'il est bourguignon, dijonnais, mais en fait, il a été élu en 2013 au Parlement écossais sous l'étiquette donc du SNP. Il a été joint par Amélie Perrault. Écoutez sa réponse à la question d'abord. Quelles sont donc les ambitions du SNP, 6 mois après l'échec du référendum, et quel sujet ce parti veut-il porter au-delà de l'Écosse? Christian Allard, au micro d'Amélie Perrault.
Nicola Sturgeon, notre Premier ministre, a été très très clair qu'elle veut avoir ce message de redécouverte de la démocratie. Elle veut vraiment réactualiser un petit peu la politique à Westminster, qui est, comme on le sait, un système qui est très ancien, qui date surtout du 19e, si ce n'est pas du 18e siècle, avec la Chambre des Lords qui n'est pas élue, par exemple, et qu'il faut absolument réformer. Donc, ce que nous voulons vraiment, c'est maintenant changer, peut-être c'est un petit peu plus difficile que ce que nous voulions faire, c'est-à-dire changer l'Écosse. Nous allons œuvrer pour essayer de changer la Grande-Bretagne et de la moderniser idées et de la sentir un peu plus démocratique, un peu plus européenne et avec un peu moins d'austérité aussi.
Voilà, ça confirme ce que vous disiez, Tom Brake, rendre l'Écosse, rendre le Royaume-Uni un peu plus européen, sacrilège en ce moment dans le débat que l'on sait. Et à propos justement de ces questions, puisque le SNP est indépendantiste à nouveau, et plus précisément, quelle est sa position par rapport à l'Europe? La réponse de Christian Allard au micro d'Amélie Perrault.
Un bon exemple, c'est moi-même. Je suis toujours français et je suis membre du parti indépendantiste et je suis député au Parlement écossais. Donc, nous sommes très, très européens, bien sûr, et nous sommes très ouverts à l'Europe. Et il y a une des raisons pour laquelle les gens en Écosse décideront peut-être d'avoir un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. C'est si, malheureusement, David Cameron reste Premier ministre et s'il décide d'avoir un référendum, si l'Écosse décide de rester en Europe et le reste de la Grande-Bretagne veut quitter l'Europe, ça ne sera pas une façon démocratique de voir les choses. Il est certain que les Écossais demanderaient un référendum pour l'indépendance de l'Écosse pour rester en Europe.
Denis McShane, c'est une épine du pied, ça, dans l'europhobie générale du Royaume-Uni, que ce SNP?
Non, parce que les SNP sont d'abord la nation, après la reste. Donc, ils veulent détruire l'union du Royaume-Uni pour aller vers l'Union européenne. C'est une absurdité, c'est illogique et c'est très, très dangereux parce que soit on maintient nos unions entre le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe, ou on le détruit, soit on maintient l'union du Royaume-Uni ou le morcelé et détruit. Donc il y a un manque d'honnêteté, franchement. Ouais. Il n'y a pas des SNP, les gens des SNP ici, mais là, il manque de logique et clarté.
Ouais, vous n'êtes pas un peu écossais sur les bords, vous, pourtant?
Je suis totalement écossais, j'ai la famille là-bas, j'ai mon fils qui étudie à Glasgow.
À Glasgow, pardon.
Étudiant à Edinburgh. Je comprends ses passions, mais je dis c'est exactement les passions marines pénistes. La France d'abord, à bas la reste. Et ça, c'est Nicola Sturgeon dans l'Écosse.
Tom Brake, il faut rappeler d'ailleurs aujourd'hui, je vous signale qu'il y a quelqu'un d'illustre qui est né à Edinburgh aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire. Vous savez qui c'est, Tom Brake?
Tony Blair.
Ben oui, Tony Blair. Oui. D'ailleurs, on savoir où il est passé, d'ailleurs, Tony Blair, Denis McShane. Tom Brake.
Je suis d'accord avec Dennis. La SNP veut détruire le Royaume-Uni, tandis que l'UKIP veut détruire l'Union européenne. Et c'est pour cette raison que s'il y a une future coalition, mon parti ne sera pas parti d'une coalition, soit avec la SNP, soit avec UKIP.
Ah oui, vous êtes immariable, si j'ose dire, avec eux. Mais justement, cette question de la coalition, c'est la dernière question qu'Amélie Perrault a posée à Christian Allard. Le SNP est vu comme un faiseur de rois, mais avec qui donc peut-il s'allier? Christian Allard, confiant, au micro d'Amélie Perrault.
Nous avons des alliés, bien sûr. L'allié le plus proche serait le Parti travailliste. Malheureusement, pour l'instant, il résiste beaucoup, mais je pense que après les élections, ce sera peut-être beaucoup plus facile. Et nous avons le Parti des Verts, nous avons les indépendantistes au Pays de Galles. Donc, nous avons toute une gamme de partis politiques progressifs qui seront vraiment une alternative à ce que nous avons eu pour plus d'un siècle entre les conservateurs et les travaillistes. Je pense qu'il faut laisser les gens voter et après nous discuterons. Je suis certain que Nicolas Sturgeon sera au centre des négociations.
Voilà, donc Christian Allard, bourguignon, député du SNP. Nous reviendrons sur toutes ces questions en deuxième partie des matins et notamment la question européenne. Deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier.